Et bonjour tout le monde, comment ça va? On est jeudi, alors pour vous jeudi c'est rien, pour moi jeudi c'est le jour où j'ai pas cours. Et donc ça ressemble presque à un jour férié, c'est-à-dire j'ai du temps, donc je vais pouvoir travailler à tout le reste qui n'avait pas le temps d'être fait auparavant. Voilà ma vie, je vous jure, j'ai jamais autant travaillé que depuis ces trois dernières années où je me suis lancé dans une formation. Et vraiment, j'avais l'idée que la formation, ça allait être un truc que j'allais pouvoir faire à côté de mon travail. Et finalement, j'ai dû abandonner mon travail, qui était chef d'agence, pour me concentrer sur la formation, parce qu'elle m'en demandait un petit peu plus, en réalité. Bref, on en est un peu là. Et justement, en parlant de formation, le sujet du jour, c'est inspiré par un article que je viens d'écrire et qui vient de sortir sur lecercledesrédacteurs.com, qui est une question presque marketing, mais finalement plus profonde que ça, qui est comment est-ce qu'on doit choisir sa formation en rédaction web. Et ça, bah, ça ouvre plein de tiroirs, en fait, quand je pose cette question-là. Donc, on va essayer d'y répondre, mais ce qui m'importe ici, c'est de vous faire un peu changer de paradigme. Parce que pour l'instant, pour peu que vous veniez du salariat ou pour peu que vous soyez rédacteur web un peu freelance débutant, vous avez l'impression qu'acheter une formation, c'est un peu le même principe que les pilules magiques. Je prends quelque chose, j'ai payé, donc je vais suivre un petit cursus et après je saurai faire. Et pour moi, on n'y est pas, c'est pas la bonne question. Ah, Oli ? Ah, excusez-moi. Oli, viens ici tout de suite. Viens ici tout de suite. Allez, viens. Je dois attacher mon chien. Une seconde. Tu bouges pas. C'est bien, tu restes avec moi. Allez, reste avec moi. Bonsoir. Voilà. Bon, le monsieur connaissait bien son chien. Et c'est pour ça qu'il m'a fait signe d'attacher le mien. Il y a des chiens comme ça qui cherchent la bagarre. C'est tout ce qui les intéresse dans la vie. Lily, viens. Et la mienne, ce qu'elle veut, c'est du gibier. C'est pas la même chose. Bref, elle repart chasser. Bon, donc, l'histoire de la pilule magique, combien de fois j'ai déjà rencontré en tant que formateur depuis ces 3-4 dernières années. J'ai commencé la formation en 2018, ça fait déjà 5 ans. Et j'en ai connu des élèves qui ont lâché au bout de quelques semaines le début de la formation parce qu'en fait, ils n'avaient pas compris quelque chose de très important. Et je vous jure que je suis le dernier à le comprendre aussi. C'est comme quand vous achetez un livre, c'est la même chose. Ou quand vous achetez une formation sur Udemy. C'est que il faut faire rentrer le savoir de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire passer du temps à apprendre, passer du temps à assimiler, passer du temps à s'exercer. Passer du temps à réfléchir, à se construire, à bâtir solide. En gros, c'est une livraison IKEA, vous voyez. C'est un meuble en kit que vous recevez. Il faut le construire. C'est pas des meubles finis. On peut pas. Ça s'appelle un employé. Si vous avez besoin d'un employé qui a des compétences, prenez-le directement. De là, vous pouvez lui ordonner des choses et il les fait. Voir un logiciel, je mets des guillemets, en fait vous les voyez pas, mais je mets des guillemets parce qu'un logiciel, il faut apprendre à le maîtriser. Moi je suis en train de m'amuser avec Facebook Business, le Business Suite, qui est l'outil professionnel pour envoyer des pubs sur Facebook. Je vous mets au défi de comprendre comment ce truc marche. C'est la plateforme la plus rentable du monde. Et leur système est affreux. C'est incompréhensible. Vraiment, c'est incompréhensible. Bref, je m'arrache là-dessus à longueur de temps. Mais c'est pas grave. Donc, dans ces conditions-là, le fait que Facebook dise que je peux faire de la publicité partout dans le monde sur n'importe quelle cible que je veux, envoyer les messages qui m'intéressent, ne signifie pas que je peux le faire parce qu'il faut que je me forme à utiliser son outil. Donc, la première chose qu'une formation n'est pas, c'est une solution rapide. La formation est une promesse d'accompagner votre transformation. pas de vous transformer. Parce que ça, c'est le même boulot que le coiffeur que vous attendez. Asseyez-vous sur le fauteuil. Ou non, Matrix, on est juste à côté. Asseyez-vous sur le fauteuil, je vous branche un câble dans le cerveau. Je vais charger maintenant mon logiciel. Tac, ça y est, vous êtes formé. I know Kung Fu, show me. Voilà ce que ça devient. Mais bien sûr que non, c'est pas ça. Vous le savez, je le sais. Intuitivement, on le sait. Mais ça n'empêche pas que vous allez acheter des bouquins à la Fnac, à Cultura ou sur d'autres plateformes comme l'excellente plateforme Label Emmaüs que j'adorerais avoir comme sponsor, mais je l'ai pas, qui est une plateforme solidaire où dès que vous achetez quelque chose, ça aide immédiatement des gens qui sont en situation de précarité grâce à cette fabuleuse marketplace où toutes les personnes qui vendent dessus font partie de l'économie militante. Voilà, Label Emmaüs, et c'est des centaines de milliers de références qui sont dessus, n'hésitez pas, parce que c'est en plus de la bonne qualité. Voilà. Mais c'est un peu ça le raisonnement, d'accord ? Vous pouvez acheter vos bouquins une fois qu'ils sont chez vous. Ben, ils sont chez vous, c'est bien. Moi, j'ai une bibliothèque remplie de bouquins. Je les regarde des fois, je me dis, oh, si j'avais le temps, je les lirais. Ouais, trop bien. Oh, ce bouquin-là, il a l'air trop bien. Voilà, ça, c'est ce que je vis tous les jours. Pourquoi ? Parce que ça demande du temps, ça demande de l'effort, ça demande de la concentration, ça demande de la disponibilité, ça demande de bloquer un créneau de 2 heures plusieurs fois par jour pendant une semaine pour pouvoir approfondir les choses, bosser les choses. Donc moi, j'ai fait une formation, par exemple, la formation que je propose, Rédacteur Pro, de 13 semaines. Les gens se disent, en 13 semaines, je vais devenir un champion. C'est vrai. Mais pendant 13 semaines, ça va pas être simple. Si tu acceptes cette idée que pendant 13 semaines, tu vas avoir 6 heures de cours par semaine, plus des heures à lire et à regarder des vidéos, plus encore des exercices à faire, des approfondissements à faire, des recherches sur Internet, de la documentation, des rendez-vous avec les autres élèves, et ça pendant 13 semaines, si tu es d'accord avec ce principe-là, je te promets bien qu'à la fin, tu ne seras plus la même personne définitivement, et que la personne que tu seras devenue sera quelqu'un qui s'y connaît bien dans le domaine du web et qui saura prendre des bonnes décisions. Mais l'effort qu'il va falloir faire, ça veut dire retourner en classe pendant 13 semaines. Ok ? C'est vraiment déjà quelques formations que vous preniez, même si vous achetez un bouquin à 30 euros. D'accord ? Genre Écrire pour le web d'Isabelle Canivet, je crois que c'est elle. Bref, un gros bouquin. Ben, si vous le bossez sérieusement comme un objet d'étude, comme un support de connaissances, que vous l'approfondissez, que vous le synthétisez, que vous le réfléchissez, que vous faites des prises de notes dans vos cours, etc. Enfin bref, que vous le consommez, ce livre, à son maximum, que vous l'annotiez, que vous le stabilotiez, ce genre de choses. Mais je vous promets que vous allez vraiment évoluer. Ça va être très fort. Mais personne ne fait ça. Les gens achètent des bouquins, les lisent, essayent de voir ce dont ils se souviennent un peu naturellement, sans ayant pris la moindre note. Et puis, terminé, on dit « Oh oui, j'ai lu le livre d'Isabelle Canivet. » Je l'ai, hein, ce livre, je l'ai chez moi. Je peux pas vous dire de quoi ça parle. Il y a trop de trucs. Et c'est toujours comme ça. Donc rien que déjà le fait que les petites choses que vous avez en stock, vous vous y penchez dessus sérieusement, ça fait déjà une formation. Ok ? Donc, premier critère de la formation que vous devez choisir, c'est une formation que vous êtes prêt à faire. C'est la première chose. On doit prendre des notes. On doit faire des exercices. On doit tenter des actions. Moi, je peux toujours faire le parcours où il y a des exercices et des choses à faire et on se stimule et on travaille ensemble, tout ça, tout ça. Il n'empêche que à la fin, si vous avez juste suivi mon chemin, ce ne sera pas suffisant. 13 semaines, ce n'est pas suffisant pour tout ce que je veux enseigner. Donc il faut approfondir, il faut aller au-delà. Moi j'appelle ça le search and learn. C'est une technique américaine, une technique à la con, qui dit tout simplement que 40% des savoirs sont délivrés par le cours et par les moments, voilà, les cours, comment est-ce qu'on peut appeler ça, en live, en quelque sorte, les débats qu'on fait ou alors les exercices qu'on fait, et les 60% c'est vous qui approfondissez. Je vous donne des liens, mais il faut aller au-delà. Il faut vous challenger pour comprendre en profondeur les choses. C'est ça le défi. Et c'est comme ça pour toute formation. On est des élèves. On doit se comporter comme des élèves qui veulent apprendre, qui veulent se saisir d'un savoir, le faire leur. Mais bon, premier critère donc, qui n'est pas des moindres, qui est totalement transformateur, hein. La formation, la meilleure que vous choisirez, c'est celle que vous aurez envie de suivre et que vous suivrez assidûment. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, qu'elle soit la meilleure ou qu'elle soit pas la meilleure. C'est la formation qui va le plus vous aider à partir du moment où c'est celle que vous décidez de faire à fond. J'ai connu toutes sortes d'élèves et je sais faire la distinction entre ceux qui font ça en dilettante, en pensant, encore une fois, qu'ils ont payé et que c'était ça le plus gros effort, et ceux qui s'impliquent profondément. La différence est extraordinaire. Le résultat à la fin est radical. Les gens les plus disciplinés, ceux qui sont prêts à faire les efforts constants, sont ceux qui sont les plus brillants, arrivés à la fin, qui ont la meilleure maîtrise des enseignements. Voilà, bref. Je pourrais presque arrêter le podcast là, tellement ce que je viens de vous dire est incroyablement important. Mais bon, on va aller un petit peu plus loin. Vu que mon texte ne parle pas de ça, et que mon texte parlait justement des fondamentaux d'une bonne formation en rédaction web. Déjà, ce qui distingue ma formation de toutes les autres, donc formation rédacteur web du cercle des rédacteurs, c'est que... On a une définition différente du métier de rédacteur web, qui vient de ma pratique. J'ai été rédacteur pendant presque un peu plus de 10 ans, 10-15 ans, j'ai été journaliste avant de devenir formateur aujourd'hui. Et j'ai travaillé avec beaucoup de gens, de beaucoup de milieux différents et de beaucoup de strates différentes, et des très grosses entreprises et des plus petites, etc. J'ai travaillé avec des grandes signatures qui m'ont présenté comme étant la solution pour les contenus, donc j'ai vraiment eu l'occasion de bosser tout ça. Et j'ai aussi eu beaucoup de revers, beaucoup de moments où les choses ne se sont pas passées comme j'espérais, ou alors où d'un coup le marché a décliné, il a fallu se réinventer, il a fallu rebondir. Et donc c'est aussi ça qui fait que aujourd'hui je définis le rédacteur web comme non pas un freelance, comme beaucoup de gens, parce que je pense que c'est trop précaire de penser de cette manière-là, parce que le freelance, en gros, c'est un salarié qui peut choisir ses clients et ses missions. C'est comme ça qu'il se définit, et c'est trop précaire. Dès que on a plus de... Qu'est-ce qui fait froid ? Il y a un vent terriblement glacé. Aujourd'hui, je suis désolé si vous avez du vent dans le micro. Le freelance va vraiment se considérer comme une espèce de salarié optionnel, qui vient sur des missions, qui travaille avec des clients, qui fait ce qu'on lui dit de faire et qui repart, qui amène sa compétence. En gros, ça permet aux entreprises d'acheter des compétences. Oli, tu viens ici tout de suite ? Allez, ma puce, viens. Désolé, gros tracteur qui arrive. Bien, pas bouge. On va attendre que le tracteur passe. Et donc, le freelance, en fait, c'est vraiment très risqué comme position aujourd'hui. Parce que, par exemple... Bonjour. C'est bien relu. Allez. Parce que, par exemple, là, ChatGPT est arrivé et nos clients, ils se ramassent tous à fond. Ils sont tous partis de ce côté-là et ils nous ont tous lâchés. Donc, comment on fait ? Est-ce qu'on fait les salariés abandonnés, placardisés, qui attendent d'avoir... Non, parce que l'argent rentre plus, en fait. Donc pour moi, la définition d'un rédacteur web aujourd'hui, ça doit être un entrepreneur dans la production de contenu. Cette définition-là, elle englobe un certain nombre de choses que vous sentez immédiatement, hein, qui peuvent d'ailleurs ne pas vous plaire. Mais la première chose, c'est on est libre de la manière dont on produit les contenus. Oui, on utilise l'intelligence artificielle si nécessaire. On l'utilise, la sous-traitance, si nécessaire. On écrit nous-mêmes, de là où on veut, comme on veut. On a les outils qu'on veut. On travaille avec YourTextGuru ou avec 1.fr ou avec tous les autres, SEO Quantum et compagnie. On choisit nos outils, on fait ce qu'on veut. On est maître de la production de contenu. C'est nous qui choisissons. Donc, pour moi, ça, c'est déjà une première liberté. La deuxième, c'est la définition d'entrepreneur. C'est-à-dire, non, je ne veux pas rester dépendant des entreprises qui me donnent du travail, je ne veux pas me contenter des missions disponibles que l'entreprise cherche, je veux aller prospecter par moi-même, trouver des nouveaux pôles, développer des nouvelles activités, peut-être même changer de métier. C'est une discussion que j'ai avec mes élèves quand ils me disent « Oui, c'est quoi le résultat, le bilan à quelques mois après des élèves qui sont passés dans tes formations, est-ce qu'ils réussissent en rédaction web ?» Une grande partie, pas la majorité bizarrement, est encore rédactrice web et travaille activement là-dessus. Les autres ont développé d'autres branches. Pendant longtemps, j'ai vu ça comme un constat d'échec en me disant « Ah, je ne les ai pas bien formés à la rédaction web », mais en fait, ils sont allés dans le contenu, ils sont allés dans le marketing, ils sont allés dans la communication, ou ils sont allés dans la formation, ou ils sont allés explorer d'autres choses, parce qu'ils ont compris le sens et la valeur de ces choses. Et ça, c'était dans mon enseignement d'entrepreneur. Donc c'est bien un mérite que je me garde de dire ben, combien d'entre eux ont développé une activité florissante qui est toujours dans le domaine du web. Si il y en a une partie substantielle, ça veut dire que je leur ai appris à mon contact. Ils ont appris, en tout cas, à penser les choses dans un spectre plus large. Ils ont appris qu'ils étaient entrepreneurs en production de contenu, ce qui voulait dire qu'ils pouvaient être entrepreneurs en autre chose. Ou que les productions de contenu, le mot contenu est important aussi, parce qu'il y en a qui travaillent à écrire des vidéos pour des youtubeurs, il y en a qui travaillent aujourd'hui à développer des podcasts, il y en a qui sont devenus romanciers, même si je pense que ça partait d'un peu plus loin que ça et que c'est pas moi qui ai déclenché ça, mais je pense que j'ai donné des clés à un moment donné qui ont permis ça. Il y en a qui ont monté une agence, des grosses agences parfois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a qui travaillent en équipe aujourd'hui. Il y en a qui sont devenus formateurs et formateurs dans le domaine du web et de la production de contenu. Donc pourquoi pas ? Sur des problématiques très ciblées et très particulières, sur des populations particulières. Donc je me dis, ok, bon ben, ça continue quoi. Il y a quelque chose qui perdure. Donc, entrepreneur en production de contenu, c'est une position que je trouve très saine pour les rédacteurs web et je pense que les formations doivent vous inviter à ça. Je ne pense pas qu'une formation aujourd'hui se sentirait raisonnable si elle se contentait de vous dire que vous êtes des freelances qui attendaient la mission de production de contenu. Voilà, vous devez écrire telle ou telle chose, on vous donnera les briefings, débrouillez-vous. Je pense que ChatGPT a changé la donne là-dessus et qu'aujourd'hui, en fait, il faut fuir le marché principal qui est gangréné par ChatGPT parce que nos clients sont un peu idiots. Ils sont partis de l'idée qu'ils pouvaient utiliser cette machine pour leur propre contenu sans supervision de quelqu'un qui connaît vraiment les contenus. Résultat, j'ai encore lu aujourd'hui un témoignage d'une rédactrice web qui disait « Je suis en train de réécrire un site internet produit entièrement par ChatGPT parce que le site est nul et mon client ne l'a pas vu. Il était convaincu que le site était bien. » Tous les contenus étaient aux bons endroits, ils racontaient des bonnes choses. Mais le problème, c'est que le marketing, c'est pas juste un pantin avec un costard-cravate. Il s'agit d'animer les choses. Anima, qui est la racine du mot âme. Il faut que vos contenus aient une âme, qu'ils soient animés. Et ça, c'est le marketing qui le permet. Donc, on est loin du compte. Donc, on a cette clé-là qui arrive en plus. On doit réussir à apporter à nos clients quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ce qu'ils n'ont pas, ce qui a le plus de valeur, en fait, c'est la communication à l'intérieur des contenus. Donc, il vous faut une formation qui, non seulement, vous forme à l'entrepreneuriat, mais aussi à la communication. Qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi. C'est simple, hein. C'est juste que c'est l'enfer à mettre en place ce truc. Mais c'est très simple, hein, je vous le donne. Qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi. Répondez à ces 5 questions et votre texte aura un sens. C'est juste que les gens ne font pas cet effort-là la plupart du temps. Parce que c'est un effort. Ça demande parfois un travail de plusieurs heures ou plusieurs jours préalables avant de répondre à ces 5 questions. Mais c'est ça qui est important, c'est d'avoir ce logiciel de pensée. C'est de pouvoir dire, moi quand je vois mes élèves en fin de formation, ils le disent. Le texte que tu nous montres, là, ne s'adresse à personne. Il est mauvais. C'est un exercice qu'on fait à un moment donné, où je leur montre quelque chose et je leur dis, et ça, ben, ça s'adresse à personne. Je ne vois pas qui est la cible. J'ai l'impression que ce texte a été généré pour personne. Résultat, ils racontent rien qui ne soit intéressant pour quiconque. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. C'est important de comprendre que votre formation, elle doit aller au-delà du texte. Si vous voulez devenir rédacteur ou rédactrice web, il va falloir accepter que c'est une sous-branche du marketing qui est lui-même une sous-branche de la communication. Nous sommes les enfants du marketing. L'indice, alors il y a plein de gens qui me disent « Non, ça va pas, moi je fais pas de marketing, je déteste le marketing. Moi, c'est l'amour des mots. » Ouais, mais quelqu'un te donne de l'argent pour que tu écrives. Ça veut dire que quelqu'un espère que cet argent va lui être rendu à un moment donné, grâce au ROI, le retour sur investissement. Ça veut donc dire que tu travailles au marketing. Je suis navré, si la personne ne gagne pas d'argent à te commander des textes, crois-moi qu'elle ne les fera pas. Elle ne va pas te le demander. Donc, c'est la preuve même que si nous, on considère qu'on n'est pas du marketing, nos clients, eux, ils savent très bien qu'on l'est. Donc, à un moment donné, il faut juste être honnête et puis prendre les choses en main. Le marketing, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui est terriblement humain en réalité, puisque les humains sont pas foutus de créer quelque chose qui soit pas humain. Donc, on reste dans notre branche. Mais voilà. Donc, cette formation doit être marketing. Elle doit être spécialisée en communication parce que c'est bien ça, ce dont on parle. Écrire des textes qui sont lus par des gens pour des très bonnes raisons. Et faisons ces textes, pas de problème. Après, le point suivant, ben, il faut replacer le formateur au milieu de son contexte et il faut lui laisser apporter les outils qui sont nécessaires. Moi, quand je forme, je suis le formateur unique à l'heure actuelle du cercle des rédacteurs, mais j'aspire à ce que les choses changent. Pour l'instant, elles ne peuvent pas. Moi, je me base sur mon expérience. Et quel que soit le formateur qui me remplacera sur différents pôles ou qui développera ses propres formations, il devra parler de son expérience. Parce que vous appréciez mes podcasts pour ça, je vous parle de quelque chose et de la théorie, j'arrive à l'exemple que j'ai vécu et à la sagesse que j'en tire, que je partage avec vous. Donc, il y a quelque chose qui est essentiel dans la communication des savoirs, c'est le fait que celui qui parle comprenne le sens profond de ce qu'il explique. Moi, j'essaye de ne pas vous raconter ici des choses qui ne font pas sens pour moi, c'est-à-dire que je n'ai pas moi-même déjà expérimenté et compris. Et je pense que le rédacteur, le formateur d'un rédacteur web quel qu'il soit, doit pouvoir répondre à toutes ces questions, donc il a besoin de beaucoup de pédagogie, mais il doit surtout puiser dans son expérience. On n'est pas en train d'apprendre le SEO. Je mets plein de guillemets parce que c'est la même chose. Le métier de référenceur doit être enseigné par des gens d'expérience. Le SEO peut être enseigné par des gens à l'université, c'est pas un problème. C'est du savoir, entre guillemets, hein, parce que c'est du savoir mouvant, c'est du savoir dynamique, c'est du savoir complexe, c'est du savoir en évolution permanente, mais on peut arrêter le savoir à un moment donné et dire « voilà, je vais te former à ça ». Voilà, moi j'ai mon organisme de certification qui m'a dit « Voulez-vous enseigner WordPress 5.4 ?» Je dis ben, « on n'y est pas, on est passé au 6, si je ne me trompe pas. » Alors, je ne suis plus sûr de mes chiffres, mais je crois qu'on est au-delà du 6. Il me dit « Oui, mais le 5.4, on a tous les cours. Vous pouvez ainsi l'enseigner, je peux même vous trouver quelqu'un pour former. » Mais on est aussi. Donc, bah oui, mais en même temps, le temps qu'on ait fixé tous les savoirs et qu'on ait fait toutes les vidéos, c'était 5.4. Donc c'est terrible. À quel point, en fait, les savoirs s'échappent à longueur de temps, à quel point le savoir est dynamique. Dans notre domaine en particulier, où il y a des nouvelles itérations quasiment toutes les semaines de quelque chose. Donc on s'accroche par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'un rédacteur en activité, qui soit formateur à côté, est une aubaine, parce que c'est quelqu'un qui vous parle de ce qu'il voit et de ce qu'il vit, et c'est précieux. C'est pas ce qui fera le bon formateur, mais c'est une part plutôt substantielle de la qualité de son enseignement. Il sait de quoi il parle et il va écarter par lui-même les conneries qu'on peut vous raconter. L'exemple que j'aime bien, c'est les mots en gras. Google donne un bonus SEO sur les mots en gras. Non. Ou alors de manière insignifiante. De tous les tests que j'ai faits, jamais un de mes textes ne s'est positionné grâce aux mots en gras. C'est pas suffisant. C'est de l'ordre de 0,1% peut-être d'impact. Mais vous avez des formateurs qui vont vous expliquer qu'il faut repeindre tout votre texte en gras, quoi. Sélectionner les meilleurs mots, les trucs, mais ça fait... Enfin, Google, il lit le texte maintenant. Je veux dire, ils utilisent l'intelligence artificielle pour lire les textes. Enfin bref, ça c'est Google Bert qui s'occupe de ça. Mais voilà, donc en discutant avec des référenceurs, vous avez ces informations-là. Ou alors, quand vous étudiez le duplicate content, quand un formateur vous enseigne le duplicate content, mais le niveau de connerie qui est dit est phénoménal, ça devient stratosphérique. Le duplicate content, je ne vais pas le développer ici, mais sachez juste que Google n'en a absolument rien à foutre de devenir un justicier, ça ne l'intéresse pas. Si vous voulez du texte par ailleurs, la seule chose que ça crée chez lui, c'est de l'embarras par rapport à son client, à savoir l'utilisateur de son site. Parce que la personne pourrait retomber deux fois sur les mêmes textes, et ça c'est chiant. Donc conséquence, bah, il va vous écarter, parce que c'est pas intéressant pour lui. Maintenant, s'il y a un site mieux que le vôtre qui vous a piqué votre texte, bah, c'est celui-là qu'il va préférer. Mieux, c'est mieux. Il n'y a pas de justice. C'est de la pure logique mercantile. Donc attention. Et les gens vous racontent que des conneries là-dessus. Ils vous expliquent que si votre site internet contient des textes qui sont dupliqués sur toutes les pages, vous allez être sanctionné. Pas du tout. Vos pages sont juste pas intéressantes. Donc Google va pas aller bien les positionner. Elles sont pas intéressantes. Parce qu'il y a le même contenu partout. Mais il va quand même les positionner. Mais pas bien. C'est des choses comme ça, c'est l'expérience qui vous apprend ça, c'est les discussions que vous avez avec d'autres professionnels qui sont au cœur de la machine. Donc c'est pas quelque chose qui mérite d'être en cours. Et pourtant, je trouve ça des fois dans des manuels où vraiment on diabolise l'acte du duplicate content en ayant complètement oublié qu'il y a une stratégie qui s'appelle les templates. J'en ai fait des tonnes, des templates qui remplissent d'entrée de jeu environ un tiers de la page avec du texte qui va être dupliqué. Et le reste, c'est du texte frais. La question, c'est juste combien de templates on met sur un site. Moi, j'avais des commandes de 600 templates. Au bout de 600 templates, je vous jure que ça passe, hein. Google, il adore. Même s'il y a 40% de la page qui est dupliquée systématiquement. Donc, c'est n'importe quoi. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, prudence. Parce que tout simplement, moi j'ai un vécu professionnel qui me montre que bah, ça, c'est pas ça le duplicate content. Donc à voir. Bref, il vous faut également quelqu'un qui va vous apprendre un petit peu au-delà du marché. Nous on enseigne par exemple WordPress et on enseigne l'intelligence artificielle. On enseigne les deux pour améliorer les process d'un côté, pouvoir fluidifier les process, pouvoir augmenter la production. Encore une fois, on est positionné en entrepreneur producteur de contenu. Donc, nous, on va réfléchir à comment améliorer les process et utiliser l'intelligence artificielle, c'est bien, mais à la condition qu'on ne le fasse pas comme nos clients. Nos clients sont nuls. Nous, on va utiliser tout notre savoir de rédacteur web pour enseigner à la machine et trouver les textes qu'il faut. J'ai une personne encore qui a publié ça sur LinkedIn. Elle expliquait que son client avait utilisé ChatGPT, que c'était un drame. Ses textes n'ont pas d'âme parce que ChatGPT ne peut pas générer d'âme. Mais bien sûr que si, qu'il sait faire ça. Il sait faire ça très très bien. J'utilise tout le temps, tous les jours, Bien sûr qu'il s'est généré des textes qui ont une âme et qui ont du caractère et qui ont du fond et qui sont touchants. Bien sûr qu'il sait faire ça. Donc il y a encore une méconnaissance là-dessus. Moi, je veux faire comprendre aux élèves toute la puissance de ChatGPT pour qu'ils sachent l'utiliser à bonne hauteur. C'est là où ChatGPT va devenir très pertinent. C'est quand on va vraiment lui donner de l'âme. Parce qu'il va nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur des projets. Là, j'ai vu que Laurent Bourelli avait fait, alors j'ai à peine vu, mais il a fait un Téléthon. Et son défi du Téléthon, c'était de créer un site internet complet en 24 heures. J'ai pas regardé son replay, d'ailleurs je crois qu'il n'est pas dispo, mais je vois pas la difficulté en fait. Je vois pas la difficulté parce que tout simplement, ChatGPT, il vous faut combien de textes? Il a dit oui, on va mettre 50 pages. Ben 50 pages, je te les fais en une journée avec ChatGPT. Le seul risque que j'ai, c'est que ChatGPT me dise stop à un moment donné parce qu'on ne peut pas dépasser un certain nombre d'itérations dans un laps de temps. Il nous coince après parce qu'il ne veut pas qu'on abuse. Il a besoin qu'on n'abuse pas. Donc bref. Mais moi, créer un site internet, je veux dire, j'ai déjà écrit un bouquin pour les cours, hein, un livre qui s'appelle WordPress Technical, qui fait 110 pages. Bon, ben, je l'ai fait en... Tous les jours, j'ai travaillé 2 heures pendant une semaine et un peu plus le week-end. Donc ça a pris un petit peu de temps quand même, ça a pris 10 heures, mais voilà. C'est pas la mort, hein. Et puis c'était vachement bien documenté, très creusé, avec des liens, des ressources, des trucs, le tout maquetté, magnifique. Moi, ça me va, hein. Je peux en sortir plusieurs par mois, des comme ça. Donc ça se réfléchit. Mais surtout, c'est important parce que c'est réel. Les rédacteurs web d'aujourd'hui, c'est des gens qui ne doivent pas passer à côté de l'intelligence artificielle. C'est super important. Si je me mets à chuchoter, en fait, c'est parce que je marche de plus en plus proche de gens qui traînent et qui sont au milieu du chemin. Donc, je ne peux pas les doubler. Donc, j'essaye de rester à bonne distance pour vous parler. Mais plus j'approche, plus je baisse la voix. Là, je suis en train de m'arrêter pour les laisser un peu prendre de l'avance parce que je vais finir en chuchotant. Donc, une formation doit vous ouvrir à ça. Elle doit vous ouvrir à l'usage très, très, très concret de ChatGPT. Pourquoi ? Pas parce que vous ne méritez plus d'écrire et que désormais c'est la machine, pas du tout. D'ailleurs, on voit la différence immédiatement entre quelqu'un qui connaît la rédaction web profondément, la dimension communicante de la rédaction web, l'ensemble des enjeux qui sont là, et de l'autre côté, quelqu'un qui n'y connaît rien et qui a utilisé ChatGPT en énumérant ses souhaits et en espérant qu'il sorte. Bah, la différence est fondamentale, hein. Il y en a un des deux, on ne sait pas que c'est ChatGPT qui a écrit. Ça, c'est le rédacteur web. Moi, quand je produis des choses, quasiment personne sait que c'est ChatGPT. Ça ne sent pas du tout ChatGPT. Et vraiment, parce que je démarre d'un personnage que j'ai défini, je lui donne des objectifs de communication, et je vais dérouler la chose. Mais ça, je peux vous donner la recette, ça ne sert à rien, parce que vous devez comprendre la recette. Moi, je veux vous apprendre à cuisiner, pas à imiter des recettes. Ça sert à rien, ça. Les gens, ils se trompent. Il faut pas faire ça, c'est dangereux. C'est comme ceux qui appliquent les recettes SEO sur leur site sans y réfléchir. C'est terriblement compliqué aussi. Ça crée des gros problèmes à la fin. Donc, dangereux. Bon, ben voilà que le couple devant moi vient de s'arrêter. Ah, il faut que je m'arrête aussi. Bref. Et donc ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste encore ? Pour une très bonne formation, je rajouterai sans doute, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais les fondamentaux rédaction web ou SEO ou les différents types de contenus, c'est déjà très bien. Moi, je vais jusqu'à enseigner ce que chaque page d'un site web doit contenir, quels sont les enjeux, et je vais aussi enseigner le tunnel de vente parce que c'est là où le texte trouve du sens. Vraiment, mais à part ça, bon, ça c'est moi qui vais de ce côté-là. J'enseigne WordPress, j'enseigne ChatGPT, ça c'est ok. Oui, bien sûr, la prospection, je l'oubliais, mais je l'ai aussi précisé dans le texte. Texte, bien sûr, que ChatGPT a écrit, vous l'avez bien compris, mais qui m'a quand même pris 1h30 de réécriture et de travail de fond et de questionnement pour être sûr que ce qui sort est ce que je veux. Néanmoins, la prospection, c'est quelque chose qui est vital, puisque encore une fois, vous êtes des entrepreneurs en production de contenu, selon moi, donc la prospection est un élément vital de votre entreprise. Moi, je vais vous conseiller des choses comme payer de la pub sur Facebook ou sur Google, parce que c'est des choses auxquelles personne ne pense. Ou alors, on va analyser les différentes techniques de prospection, on va regarder en premier lieu si vous êtes capable de concevoir un produit qui intéresse quelqu'un en particulier, quelqu'un qui aurait besoin de vos services, si vous arrivez à déterminer juste les besoins de votre cible. Là, je viens de faire une masterclass en prospection dans le cercle des rédacteurs. Je vous rappelle que le cercle des rédacteurs est ouvert à tous les rédacteurs. Voilà, c'est payant, mais en même temps, je vous assure que ça ne sera pas cher par rapport à tout ce que ça vous apporte. En termes de soutien, de suivi, de cours magistraux et d'ateliers, ça vaut le coup. Bref, c'est inclus, j'ai oublié de le dire, mais il y a toujours un an inclus dans les formations que j'offre, parce que c'est un suivi nécessaire. C'est le dernier point, mais je l'aborde déjà un petit peu avant. Enfin bref, donc ce que je veux dire, c'est que la prospection, c'est la clé de toute entreprise. C'est vraiment le point central de toute entreprise. Et c'est vraiment un schéma compliqué à maîtriser et à comprendre. Parce que ça ne parle pas de vous, la prospection. Ça parle d'offres et de demandes. Ça parle de marché et de besoins. Mais ça ne parle pas de vous directement. C'est vous qui devez vous adapter à ces choses-là. Et il faut savoir les décrypter et les comprendre. Moi, je ne vous recommanderai jamais assez de faire des formations en prospection. Si vous devez mettre de l'argent dans quelque chose, mettez-le là-dedans. Voilà, moi j'inclus ça dans mes cours systématiquement parce que ça me semble être hyper important. Et aussi parce qu'il y a une continuité entre le marketing et la prospection. Donc les gens, du moment qu'ils comprennent que s'ils savent vendre leurs clients, ils savent se vendre eux, ben en fait, on arrive dans la boucle qui m'intéresse. Voilà, et puis donc le dernier point, j'en ai parlé, c'est le suivi. C'est-à-dire qu'arriver à la fin de votre formation, ben c'est bien si votre formateur ou votre organisme de formation garde un lien avec vous d'une manière ou d'une autre. Nous, on a le cercle des rédacteurs, qui est littéralement un réseau social dédié à vous. Donc, vous pouvez parler de tout ce qui vous intéresse, poser toutes les questions que vous voulez, avoir tout le suivi que vous voulez, tout est là, quoi. Donc, on a toutes ces propositions-là parce qu'il y a une cohérence dans l'ensemble, dans ma vision définie par l'entrepreneur en production de contenu. Aujourd'hui même, il y a un niveau au-dessus que j'appelle l'architecte de contenu. Et il faut que j'amène les gens à penser de cette manière-là pour pouvoir vraiment se libérer du droit d'utiliser ChatGPT parce que nos clients n'y connaissent rien quand ils nous l'interdisent. Ils n'y connaissent rien. C'est comme les gens qui interdisent le beurre à des chefs cuisiniers. Non, t'interdis rien, tu te tais. C'est pas ton domaine. Ce qui t'intéresse, c'est le résultat. Donc, on peut utiliser des techniques qui ne sont pas mauvaises du moment qu'elles sont très bien appliquées. Des gens vont me dire « Oui, mais les textes produits par ChatGPT peuvent être détectés par Google et être finalement décrédibilisés. » Enfin, il y a un autre nom, mais là, je ne l'ai plus. Bref, dévalués. Oui, mais on a aussi des techniques d'obscurcissement qui permettent que Google ne détecte jamais que ces textes ne viennent d'une intelligence artificielle. Et tout ce qu'on va livrer va être systématiquement obscurci. Donc, pas de problème avec cette question-là. D'accord ? Donc, c'est important que vous soyez vraiment à la page par rapport à toute la situation dans laquelle on est et toute la complexité du marché sur lequel vous avancez. Ma définition du rédacteur web, c'est toujours la même. Et je l'enseigne dans mes cours en profondeur. Vous êtes un capitaine sur un bateau qui a décidé de partir en mer en vue de vivre l'aventure et de faire commerce ou de remplir des missions pour pouvoir gagner sa vie et continuer son voyage. C'est ça la définition du rédacteur web et de tous les freelances en général. Les gens se plaignent de solitude. Les gens se plaignent d'isolement, les gens se plaignent de répétition. Ça, c'est des gens qui pensent un peu trop comme des salariés. La première chose que le freelance est, c'est un être libre, c'est un entrepreneur. Ça veut dire qu'il va se faire éclater de boulot ou au contraire qu'il va trouver des solutions pour pouvoir travailler moins. mais d'une manière ou d'une autre, c'est un entrepreneur. Voilà tout ce que je peux vous dire. En tout cas, si vous devez choisir une formation, vous pouvez partir déjà de l'idée que vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez aussi chercher les formations qui sont remboursées. Les miennes sont financées, Live Mentor c'est financé, Lucie Rondelet c'est financé, Mathieu Verne c'est un peu financé, enfin ça dépend des fois, mais bon, ça va être refinancé c'est sûr, etc., etc. Donc vous avez déjà là de la chance. Mais reste toujours le premier point dont je vous ai parlé dans ce podcast, c'est tout dépend toujours uniquement d'une seule chose, c'est est-ce que vous allez consacrer toute l'énergie nécessaire à assimiler et à vous transformer au contact de ces savoirs. Si la réponse est oui, alors bienvenue. Si la réponse est non, achetez des livres, regardez des petites vidéos, cultivez-vous, écoutez des podcasts, ça va déjà vous nourrir l'esprit, ça sera pas si mal. Mais en tout cas, vous n'êtes pas prêt, et c'est pas grave, mais ne perdez pas votre temps et n'encaissez pas des échecs. D'accord ? Ne soyez pas en train de dire « Ah, je me suis lancé dans une formation et finalement, je ne l'ai pas faite. Je suis nul. » Faites pas ça. Il y a des moments où on est prêt, des moments où on n'est pas prêt. Je vous souhaite de l'être et en tout cas, je vous souhaite de ne pas vous tromper sur le moment. Et suivez mes conseils. Essayez de chercher la dimension entrepreneuriale si jamais vous voulez être freelance. Et essayez de déployer vos compétences au-delà de la rédaction web parce que tout est lié. Tout est lié. D'accord, c'est comme ceux qui partitionnent la psychologie et la santé du corps. Les deux sont liés. Il faut toujours travailler de manière un peu holistique, essayer d'aborder les choses heuristiques plutôt. Je ne sais plus. Bref, aborder les choses d'une manière assez complexe et interconnectée. Savoir faire un site internet, c'est utile quand on est rédacteur web. C'est même très utile. C'est des nouveaux métiers qui s'ouvrent, c'est des nouvelles branches, des nouvelles promesses, des nouveaux marchés. Et ça, on le veut en tant qu'entrepreneur. Je vous laisse, je vous remercie pour ce temps passé ensemble. Ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des auditeurs qui adorent ce que je fais. Je salue également les personnes qui m'ont fait un petit coucou dernièrement pour me dire qu'ils écoutaient le podcast. Ça me fait super plaisir. Je sais que quelques-uns en profitent pour se balader. Bonne balade à vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.